French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
T'as plusieurs quartiers dans la vieille ville. T'as un quartier chrétien, t'as un quartier musulman, t'as le quartier juif et le quartier arménien. C'est juste magnifique. C'est, alors déjà, c'est toujours la pierre blanche de Jérusalem, mais là, c'est une histoire. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'à Jérusalem, t'as toutes les religions qui se côtoient tout le temps au quotidien, toutes les nationalités, toutes les origines. Et tu te rends compte que ça fonctionne super bien.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire de Laetitia, jeune maman de deux enfants, qui a réalisé son tout premier voyage hors de France il y a seulement 5 ans. Laetitia nous parle aujourd'hui depuis la ville historique de Jérusalem. Elle nous raconte comment sa famille est venue s'installer en Israël alors que tout était prêt pour une expatriation à Casablanca, au Maroc. La peur liée à la méconnaissance du pays, de sa culture et même plus particulièrement de la ville. La peur viscérale de s'expatrier dans un territoire qu'on ne pense pas en paix. Finalement, après plusieurs mois de déni total, elle part. En se disant qu'elle reviendra peut-être avant son mari. Elle se garde une porte de sortie. Et aujourd'hui, Laetitia le dit elle-même, elle n'a pas particulièrement envie de rentrer en France. Aujourd'hui, on discute aussi de la réalité à laquelle les néo-expats de 2020 doivent faire face, le coronavirus. Alors non, je n'aime pas en parler plus que vous du coronavirus. Mais c'est un véritable défi, et je pense que c'est important de mettre les mots sur ce que ces personnes vivent. Laetitia nous raconte ainsi ce que c'est de s'expatrier dans un pays que l'on regarde par la fenêtre. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous parler d'un petit truc qu'on a lancé récemment. Il s'agit du répondeur du podcast. En deux mots, on a envie de savoir un peu ce que vous pensez, on a envie de savoir ce que le podcast vous apprend, on a envie de savoir ce que vous aimez et peut-être même qui est-ce que vous aimeriez entendre. Alors on a lancé un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages, c'est hyper simple, il n'y a vraiment rien à installer, vous pouvez le faire depuis un ordinateur comme d'un téléphone et le lien est dans la description du podcast ainsi que sur notre site internet. C'est tout nouveau ? On apprend avec vous, alors je vous propose qu'on écoute le tout premier message du répondeur. Et on écoute l'épisode juste après.
Salut à tous, moi c'est Lou, j'ai 33 ans, je suis originaire du nord-est de la France où je prépare mon expatriation en famille aux États-Unis et plus précisément en Floride via une opportunité professionnelle de mon mari qui travaille dans la food tech. Alors, un de mes épisodes préférés, c'est celui de Laura dans l'épisode 2 de la saison 1, qui a eu le courage de se reconvertir professionnellement parlant pour devenir professeur de français langue étrangère. Et en fait, ça a clairement donné un sens à mon expatriation parce que moi, en tant qu'épouse suiveuse, entre guillemets, du mari, je me demandais mais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme travail là-bas. Et là, voilà, ça m'a clairement donné l'idée d'exploiter cette piste. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de passer le diplôme que j'ai obtenu en décembre dernier. Et j'en profite donc pour remercier Anne Fleur et toute l'équipe de French Expat, le podcast qui nous aide et qui nous donne, nous, l'opportunité future expat de se projeter personnellement et professionnellement parlant. Hâte de découvrir d'autres témoignages et qui sait, peut-être qu'un jour je serai à mon tour invitée. Ça serait une jolie façon de boucler la boucle.
Next up, Jérusalem. Coucou Laetitia, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va super bien, merci beaucoup de prendre le temps de venir me parler un petit peu ce matin. Ça fait quelques semaines ou peut-être même quelques mois qu'on se court après pour discuter de ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu nous parles ce matin ?
Alors, ce matin, je vous parle de chez moi, à Jérusalem, en Israël.
D'accord. Et tu es là depuis combien de temps ?
Alors, c'est tout récent. On est arrivé ici le 1er août de cette année, de 2020 en fait. Donc, ça fait 6 mois.
Ouais, c'est tout nouveau, tout nouveau. Et première expérience à l'étranger ?
Eh ben écoute, c'est très bien, c'est chouette, mais disons que le Covid nous bousille un petit peu notre arrivée.
Ouais, bah écoute, on va y revenir dans un instant, un peu plus en détail. Est-ce que, avant de parler de ton expatriation à proprement parler, est-ce que tu pourrais te présenter ? On a compris que tu t'appelais Laetitia, que tu nous parlais de Jérusalem.
J'ai 33 ans. J'ai 2 enfants, 2 garçons, donc Nolan et Tom, ils ont 8 et 5 ans. Je suis mariée et en fait, on vient de France. On habitait, avant d'emménager ici en Israël, à Senlis, près de Paris. J'avais mon entreprise en France et du coup, aujourd'hui, je ne fais plus rien, mis à part m'occuper des enfants.
D'accord. Tu bossais dans quel domaine ?
J'avais créé mon entreprise dans la création de paniers et de sacs personnalisés.
Ah, sympa. D'accord. Ok. Et donc, tu dis que tu as mis ça en arrêt parce que... Est-ce que tu ne peux pas continuer l'activité à distance ou parce que tu n'as peut-être plus le temps hein, comment, ou tu n'as peut-être même pas le droit ? Je ne sais pas comment ça se passe en Israël.
Alors, déjà, je n'ai pas le droit parce qu'il me faudrait un visa de travail et honnêtement, je ne me suis pas encore attardée sur les démarches. Ensuite, Israël étant très loin, mes paniers venaient de France et du Maroc. Donc, pour les faire venir, ça revient très, 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 très cher avec les taxes. Donc, tout est compliqué et je t'avoue qu'avec le Covid, du coup, c'est encore plus compliqué de se déplacer, d'aller chercher des infos et tout ça. Donc là, c'est vraiment en suspens.
D'accord, ok, ok. Tu disais donc que Israël, c'est votre première expérience à l'étranger. Est-ce que tu pourrais me raconter, quand on préparait un peu cet épisode, tu me disais que tu as toujours rêvé, tu as toujours su que tu partirais vivre à l'étranger. Comment ça se fait ?
Alors, j'ai toujours su, oui et non, parce qu'il faut savoir qu'avant 2016, j'avais jamais mis un pied à l'étranger.
Waouh, ok.
Parce que j'avais une phobie de l'avion.
Ok.
Donc 2017, on s'est mariés, on s'est dit « Allez, il faut absolument qu'on fasse un voyage de noces ». Donc j'ai vaincu ma phobie grâce à l'hypnose.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, ça a été une révélation. On est parti en Thaïlande. Mmh. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est magique, quoi ». Alors c'est sûr, on est en vacances. Les étrangers, une autre culture, voir autre chose. Ça a été une révélation. Et de là, en fait, mon mari me parlait toujours. Il me disait « Écoute, moi, j'aimerais bien faire une demande pour travailler à l'étranger et tout ça ». Et ça avait... j'avais toujours dit non, je peux pas, je me sens pas capable à cause de l'avion. Et puis comme j'avais jamais été à l'étranger, moi je me suis dit mais c'est hors de question que je vive à l'étranger. Ouais. Ça me faisait peur. J'avais un peu le mal du pays.
Ouais, bien sûr.
Et en revenant de Thaïlande, je lui ai dit ok, c'est bon, fais une demande à l'étranger, je pense que j'ai vraiment envie de vivre ailleurs, de connaître ce qui est l'expatriation en fait.
D'accord. Comment est-ce que vous avez décidé, je sais que vous n'avez pas exactement décidé en fait, donc je ne sais pas comment formuler ma question. comment est-ce que vous êtes arrivé en gros en Israël ? À la base, ton mari donc il y a eu le déclic. Enfin après cette discussion, vous avez dit ok, on va tenter cette demande de mutation, d'affectation. On vous a rapidement proposé, c'était quoi, le Maroc, c'est ça ?
Ouais. Alors si tu veux, quand on a fait notre demande de mutation à l'étranger, il faut savoir qu'on avait pas du tout le choix ni du pays, ni du continent, ni de rien.
D'accord. Même pas possible de mettre des préférences ou...
Si, on a mis des préférences, mais généralement, c'est vraiment où ils ont besoin. On va, tu sais, si on aurait mis Asie, États-Unis, ils nous auraient pu très bien nous mettre dans un autre pays ou sur un autre continent, d'accord. Vraiment à l'inverse.
Ouais, d'accord.
Donc on a émis des préférences, on a émis Asie, Afrique,
okay.
Et Amérique du Sud. Et finalement, on nous a annoncé à l'été 2019 qu'on partait pour Casablanca.
D'accord.
Donc au Maroc. Bon, moi j'étais un petit peu déçue parce que tu vois, c'était un peu trop proche de la France en fait, finalement, tu vois.
Ah ouais, comme quoi.
Ouais, donc j'imaginais voyager un peu plus loin en fait, être un peu plus dépaysée, on va dire. Finalement, voilà, donc été 2019, on se dit bon, c'est parti pour Casablanca. On partait un an après en fait, été 2020. On était en vacances en Espagne, c'était le soir, on prenait l'apéro tranquille. C'était génial. Mmh. Et là, mon mari me dit, Laetitia, c'est bon, j'ai une nouvelle. Je lui dis quoi ? Il me dit, ça y est, on part. Je dis, comment ça, on part ? Il dit, notre demande de mutation à l'étranger a été acceptée. Et là, ça a été un gros choc.
Ah ouais, ça devenait trop concret ou ?
Ça devenait trop concret, ouais. J'étais en vacances, j'étais toute légère et tout ça. Et en fait, dans ma tête, je pensais que ça allait être refusé, tu sais.
Ouais.
J'y pensais plus du tout. Et quand il m'a dit, ça y est, on a accepté. Ouais, je me suis dit, ah, ça y est, ça prend du sens. On va vraiment partir. Et là, en fait, j'ai paniqué. Je savais pas. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai peut-être plus envie de partir. Parce qu'en plus, tu sais, entre deux, mon entreprise avait pris de l'ampleur. Ça fonctionnait hyper bien. Et je me suis dit, mais je vais devoir fermer. En fait, ça a été un gros coup de panique. Je m'attendais pas à cette nouvelle. Et en plus, pas là, tu sais, en vacances, où j'avais aucun de mes proches, aucun de mes amis avec moi. Ça a été dur, ouais.
Ouais, d'accord. D'un point de vue hyper pratique, vous en étiez où de vos vacances quand t'as réussi un petit peu à te projeter?
On était pile la moitié.
Ah ouais, d'accord. Donc le reste des vacances, ça a été un peu concentré en mode à réfléchir tout de suite en fait à la suite.
Ouais, déjà la nuit, ça a été très compliqué pour moi. Je pleurais beaucoup.
Ah mince, tac.
Je voulais pas l'annoncer à mes parents parce que mes parents, voilà, tu sais, moi je suis leur petite fille, donc me voir partir à l'étranger, ils savaient qu'on avait fait une demande, mais je voulais pas leur dire là tout de suite, ça y est, c'est accepté. Donc, il fallait que je garde la nouvelle pour moi. Et en fait, après le reste des vacances, on s'est dit, allez, on met cette question-là de côté. On en reparle en rentrant de vacances. Mmh. On était sûrs de rien, du coup. Et puis, on a su faire abstraction.
D'accord. Comme tu dis, tout s'est un petit peu précipité. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Par quel bout est-ce qu'il faut prendre les choses? Est-ce que d'ailleurs, je sais pas, le job de ton mari, c'est un job qui vous aide un petit peu dans ce projet d'expatriation?
Oui. Alors ouais. on a la chance, ouais, effectivement, que l'employeur de mon mari gère toutes les démarches, c'est-à-dire la recherche du logement. C'est vraiment la plus grosse difficulté en plus, je pense, quand tu pars vivre à l'étranger. Ouais. Tout ce qui est administratif, donc les passeports, les visas pour pouvoir travailler, pour pouvoir y vivre aussi. Donc tout ça, c'était géré par l'employeur. De mon côté, tu sais, la première question vraiment qui m'a perturbée, c'est l'école des enfants. Ça a été vraiment la première chose que j'ai cherchée sur Internet quand on a su qu'on partait à Casa, c'est école pour les enfants, donc à Casablanca.
Question peut-être bête, mais donc du coup, tu disais que tu avais pris l'avion pour la première fois que quelques années juste avant. T'en connaissais quoi du Maroc? Tu y avais jamais mis les pieds?
Jamais.
T'en connaissais quoi du coup à ce moment-là? Est-ce que parce qu'il y avait des choses qui t'attiraient particulièrement, des choses qui te faisaient peut-être un peu plus peur que d'autres?
Bah, il y avait rien qui m'attirait forcément au Maroc, mis à part peut-être le climat, tu sais, les paysages. Ouais. Après, je connaissais parce que ma meilleure amie, si tu veux, est marocaine, donc elle m'avait déjà beaucoup parlé du Maroc. C'était rassurant. Et puis quand j'ai su qu'on devait partir là-bas, du coup, elle m'en a un peu plus parlé. Je savais que c'était un pays très touristique. Donc en soi, le pays me faisait absolument pas peur. Tu vois, au contraire, tu vois, c'est ce que je te disais. J'ai l'impression que c'était peut-être pas assez des paysans finalement.
Donc vous préparez votre déménagement direction le Maroc. Tu reçois même les photos de ta nouvelle maison. Enfin, t'es à fond dedans, quoi. Tu fais les démarches avec le déménageur.
Ouais.
Et vous partez en vacances à New York, pas très très loin de là où je suis.
Et en fait, avant de prendre l'avion, il reçoit un message bizarre où déjà ça nous met la puce à l'oreille, où il se passe quelque chose avec notre destination. En fait, il était sur un groupe de personnes qui étaient mutées comme nous à l'étranger. Donc il y a une personne du groupe qui a laissé un message comme ça en disant bah, « ça y est, j'ai eu mon lieu de destination, je pars à Casablanca ». Et là on s'est dit « mais mince ». Il y a qu'un poste. Il y a qu'un seul poste à Casa. Alors mon mari me dit bah écoute, peut-être ils ont créé un deuxième poste. Je dis bah c'est quand même bizarre.
C'est hyper cavalier quand même de la prendre par d'autres.
Bah exactement, on est bien d'accord. Et là je me suis dit bon écoute, on met ça de côté. Ça tombe, lui effectivement, il y a un deuxième poste de créer parce que tout bouge sans arrêt dans son entreprise. Et on a fait une vacance normale. Et on n'y a pas pensé. Quand on est rentré là, par contre, je m'en souviendrai toujours. En fait, on était très malade. J'étais très malade en rentrant de New York.
Ah mince.
Ouais, tu vois, c'était fin février, début mars. Du coup, des fois, je me dis, est-ce que c'était le Covid? Je sais pas. Mais j'étais très malade. Je dormais et mon mari était au téléphone. Il me réveille, il me fait des grands signes. Mais genre, il y a une catastrophe, tu vois. Donc, moi, je me réveille, je le regarde et il me faisait un geste de main. Oh là 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 là. Et moi, je me demandais ce qui se passait. Et il met sa main sur le téléphone pour pouvoir me parler. Et il me dit, on change de pays, Laetitia, on part plus à Casablanca. Je dis, ah bon, on part où? Et là, il me sort, alors qu'il est au téléphone avec son employeur. Il me sort, on part en Israël.
Waouh.
Et tu vois, moi, j'étais encore dans mon rêve, en fait. Et je dis, mais c'est pas possible.
Qu'est-ce que t'as pensé?
Ah ben, je suis tombée, je me suis assise par terre. Vraiment, littéralement, je me suis assise par terre dans la cuisine.
Ouais.
J'ai commencé à pleurer et il était encore au téléphone et je lui ai dit, dis-lui qu'on ne part plus.
Oh, ah ouais. Ah ouais, pour toi, c'était catégorique, quoi.
C'était catégorique, ouais, parce que moi, j'avais une image d'Israël absolument horrible, tu vois.
T'en pensais quoi? Enfin, t'en avais quoi comme image?
Bah, moi, les images que j'avais, c'est celles qui passent à la télé, tu sais, aux informations. C'était un pays en guerre, où il y avait énormément d'attentats, où il y avait des bombardements, où ça tirait sans arrêt. Donc, je me suis dit, c'est hors de question que j'emmène mes enfants dans un pays en guerre.
Ouais, donc c'était catégorique, c'était hors de question, next, quoi.
Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, à ce moment-là, il a dit à son patron, bah, écoutez, je vous rappelle, je vais en discuter avec elle et tout ça. Et je l'entendais, ce patron qui disait, oui, mais il faut absolument que vous lui montrez des reportages, lui montrer que ce n'est pas du tout un pays en guerre comme on peut le voir sur les chaînes d'infos et tout ça. Et puis moi, j'étais complètement fermée, quoi. À ce moment-là, c'était même pas la peine, en fait, de discuter avec moi.
Tac. Et alors, comment est-ce qu'il a fait? Puisque tu nous parles d'Israël aujourd'hui.
Il y a beaucoup travaillé. Alors écoute, on a commencé effectivement à regarder des reportages, c'était grand format, je m'en souviens, c'était sur M6 et c'était sur Tel Aviv. Et là je me suis dit, non mais c'est une blague en fait, c'était un lieu de vacances, tu vois, le Tel Aviv, c'est un peu comme la Floride,
ouais.
Où les gens ils font du roller, de la trottinette torse nu, du sport, une super belle plage avec des palmiers, des buildings un peu partout. Et je dis, mais ça ressemble à ça en fait. Donc là, tu vois, j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu, à accepter la conversation, on va dire, parce que tu vois, j'étais complètement fermée, quoi. Je voulais même pas en discuter. J'ai commencé à regarder ce qu'il essayait de me montrer, parce qu'il me montrait des choses sur Internet, des images, des photos. Et après, en fait, on a eu la chance d'avoir les témoignages des femmes de ses collègues qui étaient déjà en Israël depuis quelques temps.
Ah, c'est hyper précieux, ça, non?
Ouais. Bah carrément, mais complètement, complètement. Et du coup, voilà, elles m'ont raconté un petit peu la vie ici, comment ça se passait, comment elles se sentaient. Et au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de témoignages, puis en parlant autour de moi d'Israël, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avaient quand même une belle image d'Israël. Tu vois, il y a que moi qui étais focalisée sur mon image de guerre, mais les gens me disaient, mais c'est ouf ce que tu vas vivre, quoi. Israël, c'est trop bien. Moi, je rêve d'y aller en vacances. Je disais, ah bon? Bah ouais, non, mais c'était, pour moi, c'était inconcevable, tu vois. Mais au fur et à mesure, voilà, d'entendre des témoignages, de voir des choses à la télé, sur Internet, ça m'a rassurée, mais pas complètement, quoi.
Une fois que t'as compris que c'était pas en guerre, c'était quoi les inquiétudes qui subsistaient pour toi?
Déjà partir à l'étranger, forcément.
Ouais, ça restait une crainte, bien sûr.
Ouais, ne rien connaître, parce que bon, tu sais, ici, c'est un pays où la religion est très, 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 très présente.
Surtout Jérusalem, j'imagine.
Surtout Jérusalem, ouais. Tu vois, t'as les trois religions principales qui se rencontrent au quotidien et ça fait vraiment partie intégrante de la culture de Jérusalem. Du coup, comme j'y connaissais absolument rien, la religion juive, je me posais énormément de questions et j'appréhendais un petit peu tout ça. Et bon, après, il y avait la langue aussi. Parce que moi, je ne parle absolument pas anglais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'avais un niveau d'anglais pitoyable. Et la deuxième langue ici, c'est l'hébreu. Et du coup, ça m'a fait peur aussi. Et après, l'inconnu, tu vois, l'école, l'inconnu. Est-ce qu'il va y avoir des magasins comme en France? Vraiment, c'était pour les questions du quotidien, en fait.
Les magasins, tu veux dire faire les courses, des choses comme ça, quoi.
Ouais, même des trucs de marque, parce que moi, j'adore le shopping, tu vois, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que je vais pouvoir faire du shopping comme en France, tu vois, c'est vraiment des petites choses, mais des petites choses qui m'ont...
Ouais, qui s'accumulent, parce que bah, ça va révolutionner ton quotidien, forcément.
Bah voilà, effectivement. Donc, je me demandais vraiment si la vie, elle serait vraiment comme en France, comme... en Occident, en fait, parce que on est vraiment du côté des pays orientaux, et je me suis dit, est-ce que ça va changer? Comment est vue la femme là-bas? Comment est-ce que je peux m'habiller? Comment est-ce que je peux me comporter dans la rue? Tout ça.
Et alors, du coup, bon, on va revenir un petit peu à comment est-ce que ces inquiétudes et ces préjugés ont pu être mis à mal une fois que t'es arrivée.
Ces préjugés, ouais.
Non, mais c'est vrai, bah, on a tous manière des préjugés avant d'arriver, avant d'aller peu importe où que ce soit sur la planète. Du coup, tu me disais, donc de mars à juillet, t'es un peu ailleurs, tu t'es forgé un peu, tu t'es mis des œillères et tu refuses un peu de te dire que tu pars en Israël. Comment est-ce que vous annoncez du coup à tes garçons? Est-ce que eux, ils savaient que vous partiez au Maroc à la base? Comment est-ce qu'ils ont été impliqués dans ce projet d'expatriation?
Alors en fait, dès le début, avant même qu'on fasse notre demande de mutation à l'étranger, on avait discuté, alors peut-être pas avec le plus petit parce qu'il était vraiment petit quand c'est arrivé, il a que 2 ans donc il aurait rien capté, tu vois, mais le plus grand, lui, on a parlé, surtout que c'est un petit garçon hyper sensible, donc c'était pour nous une évidence de vraiment poser le cadre, tout lui expliquer depuis le début pour pas qu'ils se sentent aussi trahis, tu sais. Et du coup, dès le début, on leur a dit, écoutez, on compte faire une demande pour aller vivre à l'étranger, vivre dans un autre pays pour que papa puisse y travailler. La nouvelle avait été plutôt bien prise. Je pense qu'ils réalisaient peut-être pas trop, en fait, quand on lui a expliqué. Quand on leur a dit qu'on partait à Casablanca, au début, bon, ça a été un peu dur comme nous, mais après, ils étaient plutôt contents. On leur a dit, vous allez pouvoir faire du surf, il y a la plage. Il fait tout le temps beau et tout ça, donc ça a été. Et le changement, écoute, je crois qu'ils ont senti un petit peu mon stress aussi.
C'est pas facile, ça, du coup, de pas leur communiquer ton angoisse.
Ah, je pense que j'ai même pas eu besoin de leur communiquer parce qu'ils m'ont vu une paire de fois quand même, tu sais, pleurer, ne pas être rassurée. Donc, je l'aurais pas caché, ils l'ont vu. Ouais, et en plus, je les avais mis dans la confidence. Je leur avais dit surtout, parce que tu sais, quand il y a eu le changement de pays entre deux.
Ouais.
Donc, Casablanca, ma famille était au courant. On partait à Casablanca, ils avaient accepté la nouvelle, ils étaient contents, ça y est, voilà. Alors, quand on m'a dit « tu pars plus à Casablanca, mais pour Israël », j'ai eu une crainte, mais horrible, d'annoncer la nouvelle à mes grands-parents et mes parents.
Ah ouais? Comment ça se fait?
Bah, parce qu'ils sont comme moi. Tout de suite, ouais. Ils se seraient dit « mais non, c'est en guerre, vous pouvez pas partir là-bas ». Ça aurait été la grosse angoisse, la grosse inquiétude, la crise de panique, je pense aussi. Et du coup, j'ai mis du temps à leur annoncer, mais j'avais déjà annoncé la nouvelle à Nolan et Tom. Et du coup, on les a mis dans la confidence et leur a dit « c'est un secret. Pour l'instant, il faut pas dire à mamie, à nanou, à papou qu'on part en Israël, on part à Casablanca ». Et ils nous ont dit « ok, ils ont jamais vendu la mèche, tu vois ».
Dingue, waouh, ouais, ok.
Ouais, ils ont jamais vendu la mèche et on leur a annoncé en juillet.
Ah ouais, d'accord, vraiment dernière minute, quoi.
Ouais, et encore, c'est parce que je me suis vendue sur les réseaux. Tu sais, moi, je me suis dit, mamie, ma mère, je lui ai annoncé un petit peu avant.
Ouais.
Pendant le confinement, je lui ai dit, pendant le lockdown en France.
Mm-hmm.
J'étais au téléphone avec et je lui ai claqué ça au téléphone. Tu sais, elle m'en a voulu d'ailleurs parce que elle me dit, j'aurais apprécié quand même que tu me le dises en face à face. Tu me l'as claqué comme ça par message. Parce que tu vois, je crois que c'était la pression du confinement et tout. Ça me rongeait de l'intérieur et j'étais obligée de dire, je lui ai dit comme ça, coucou maman, au fait, on part plus à Casablanca, on part en Israël.
Waouh.
Tu t'imagines un peu le truc, donc ça a été compliqué. Après, elle m'a dit, attends avant de le dire à mamie, surtout attends. Je lui ai dit, ok. Et du coup, j'ai annoncé en juillet sans trop l'annoncer. En fait, finalement, je me suis dit, mamie, elle a les réseaux sociaux, mais elle capte pas grand-chose, tu sais, aux stories et tout ça.
Ne jamais sous-estimer nos aînés.
Exactement, grosse erreur. Elle a su aller dans des posts et lire des commentaires et c'est là qu'elle a vu que je parlais d'Israël et elle m'a pris entre quatre yeux, tu sais, elle m'a dit « tu mens Laetitia ?» Je lui ai dit « comment ça je te mens ?» Elle me dit « je pense que tu pars plus à Casablanca mais que tu pars en Israël. »
Incroyable.
Ouais, j'ai dit « mais comment tu sais ?» Et là en fait, la nouvelle elle est passée très facilement.
Ah super.
Ouais. Très, très facilement. Je lui ai tout de suite montré un reportage que j'avais enregistré dans mon téléphone, tu sais, pour tout de suite lui montrer, voilà, ça se passe bien. Mais finalement, non, écoute, elle a pris la nouvelle plutôt bien.
Oh, super, bonne nouvelle, d'accord.
Ouais.
Du coup, 1er août 2020 arrive.
Ouais.
Vous voilà en route pour l'aéroport, direction Jérusalem.
Mm-hmm.
Comment ça se passe?
Très mal.
Pourquoi?
Bah, en fait, déjà, tout le mois de juillet, j'ai été hyper stressée. Tu vois, j'étais chez ma mère parce que le conteneur est venu chercher nos affaires le 1er juillet.
Ouais.
Donc, on avait un mois sans logement. Donc, on est resté un mois chez mes parents.
Mmh.
Donc, ça a été déjà très compliqué le mois de juillet parce que plus le départ approchait, plus j'appréhendais.
Ouais.
Et le jour du départ, ça a été dur. Tu vois, les au revoir ont été très, très, très compliqués. Je me suis dit, ça y est, je fais une grosse erreur. Pourquoi j'ai accepté? En fait, je veux pas partir. Je pars vraiment j'ai l'impression de partir contre ma volonté, tu vois.
Ouais.
Et j'ai l'impression de faire une grosse, grosse erreur.
Ah, mince. Mais tu montes quand même dans l'avion.
Mais je monte quand même dans l'avion. Bah oui, parce que je me suis dit, je peux plus faire marche arrière. Là, c'est plus possible, tu vois. Donc, ouais. Je suis quand même montée dans l'avion en larmes, avec une grosse boule à l'estomac, vraiment stress complet. Mais je l'ai fait quand même parce que, en plus, tu vois, c'était quand même aussi un combat pour moi de franchir ce cap. Et je me suis dit, même si c'est une erreur, ben, au pire, on reviendra avant, quoi.
Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est vachement important aussi de savoir, en fait, ça. Bah, si ça marche pas, si t'es pas heureuse, savoir que tu peux rentrer,
ouais.
C'est aussi vachement rassurant, quand même.
Oui, quand même. Ouais. C'est, bah, en plus, c'est pas moi qui partais pour un travail. Tu vois, je me suis dit vraiment si c'est l'enfer, si si j'arrive pas du tout. Je sais que moi, j'ai pas. Mon mari, oui, il a un poste à tenir, il a un engagement. Moi, non. Donc, tu sais, je me disais même dans la tête, peut-être que je passerai plus de temps en France et je reviendrai un petit peu ici. C'est un micmac à ce moment-là dans ma tête. Hein, attention.
T'avais tout envisagé, hein, mais bon, c'était.
Bah oui, vraiment oui, parce que. Pour moi, vraiment, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, je fais une grosse erreur, il faut que j'y aille quand même, et si ça va pas, bah, je rentre, et puis voilà quoi.
Alors donc du coup, 1er août 2020, vous voilà atterrir à Jérusalem. La situation à Jérusalem par rapport au coronavirus fait que vous êtes placé directement en quarantaine, c'est ça, pour 14 jours ?
Exactement, ouais, 14 jours à la maison, sans mettre un pied dehors, ni pour les courses, ni pour rien en fait. Aucune raison valable pour mettre un pied dehors, ne serait-ce un orteil.
Ouais, d'accord, même pas pour prendre l'air quoi.
Pas du tout, absolument interdit. Et ici, c'est très strict. Les téléphones, ils sont géolocalisés. Tu as un numéro en plus avec ton numéro de passeport. Si tu contrôlais dehors, le policier te demande ton numéro de passeport. Il voit tout de suite si tu es en quarantaine ou pas. Donc voilà, c'était vraiment très strict et ça a été très dur aussi.
Et du coup, cette quarantaine, vous l'avez fait dans votre nouveau logement tout de suite? Vous aviez un logement qui vous attendait?
Ouais, on avait notre logement qu'on avait choisi du coup quand l'employeur de mon mari nous a montré plusieurs logements. Donc il était déjà meublé.
Oh cool, ok.
Ouais, heureusement, tu vois. Et du coup, les collègues de mon mari ont été géniaux parce qu'ils nous ont fait un peu de courses. Leurs femmes nous ont préparé des plats, tu sais, pour le soir, le lendemain, des desserts. On avait vraiment ouais franchement, et ça nous a vachement rassurés parce que tu vois, en plus on arrive en quarantaine, donc on pouvait même pas sortir pour se nourrir ou boire, ou donc heureusement franchement elles ont été super solidaires, super elles nous ont beaucoup aidés. Et du coup voilà, après il a fallu se débrouiller pour le reste, hein, pour faire des courses, pour essayer de se débrouiller pendant 14 jours sur via internet, tu vois.
Est-ce que tu me disais justement que gérer les livreurs, c'était pas toujours facile parce que l'anglais et l'hébreu, c'est des langues que vous maîtrisiez pas vraiment encore?
C'était une catastrophe. Alors déjà, je t'explique, tous les sites internet sont en hébreu.
Ouais.
Donc l'hébreu, tu vois, c'est pas du tout des lettres latines. Hein,
ouais.
Donc si, alors si je passais par Google Chrome, c'était traduit. Mais sauf quand t'arrivais sur la partie paiement, en fait, je ne sais pas pourquoi, sur tout leur site internet, la partie paiement n'est jamais traduite en anglais. C'est toujours en hébreu. C'était une partie, mais ça me rendait folle. Donc voilà, ça c'était vraiment une épreuve. Aujourd'hui, on fait ça facilement, mais à l'époque, il fallait s'accrocher. Les courses prenaient environ 2-3 heures.
Ah ouais, alors que tu les faisais à distance.
Bah oui, puis en plus je connaissais même pas les produits, tu vois.
Ouais.
Sur tous les produits, c'est écrit en hébreu, donc je disais mais qu'est-ce que c'est ça, et ça c'est quoi, et ça, donc je me suis trompée une paire de fois, je ne t'explique même pas. Et après ouais, avec les livreurs quand ils arrivaient, c'était des moments incroyables, on s'en souviendra, parce que des fois ils ont même pété des plombs quoi.
Ouais, pourquoi?
Bah parce qu'en fait, si tu veux, ils parlaient hébreu, on leur disait qu'on parlait pas hébreu, mais qu'on parlait un petit peu anglais. Donc eux, ils parlent ici, en Israël, ils parlent beaucoup anglais aussi. C'est même plus parlé, j'ai envie de dire, que l'hébreu, généralement, dans les magasins et tout ça. Et on parlait aussi très peu anglais. Donc tu vois, quand on dit au monsieur, oh, je suis désolée, on parle pas hébreu, et qu'il enchaîne sur l'anglais, et que là, on lui dit, on parle pas très bien anglais non plus.
Ouais. Ah, c'est chaud.
Il s'impatientait un petit peu, tu vois. Ouais.
Alors, donc, du coup, vous faites vos 14 jours comme ça. Et au bout de 14 jours, la libération, tu vas enfin pouvoir aller voir qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel tu as débarqué. Parce que pendant 14 jours, tu es un peu dans une espèce de purgatoire où tu es là, mais tu n'es pas là.
Ouais, c'est ça, on est...
De découvrir, tu vois en fait que les mauvais côtés, voilà, comme tu dis, quoi, le fait d'organiser sa vie depuis un petit... Enfin, je sais pas, c'est un appartement, une maison, tout ça est nouveau. Qu'est-ce que, du coup... Tu commences par faire une fois que vous avez l'autorisation de sortir, et puis bah raconte un peu. Moi, je veux savoir quelles sont tes réactions. Qu'est-ce que tu vois? Raconte-moi un petit peu.
Alors, bah quand on sort déjà, on est arrivé en pleine nuit en Israël quand on a atterri.
D'accord.
Il faisait déjà chaud, mais c'était la nuit, donc ça allait. Ouais. Là, le jour où on a pu sortir notre quarantaine, on a été comme assommé par la chaleur.
Ouais.
Ça a été mon premier choc, en fait, cette chaleur écrasante.
Ouais.
Je me suis dit, ah, On m'avait dit qu'il faisait chaud, mais je pensais pas qu'il faisait chaud à ce point. Donc ça, ça a été vraiment une grosse surprise. Et ensuite, en fait, le premier jour où on a pu sortir, on a fait le tour de notre quartier, si tu veux. On a été au parc avec les enfants parce qu'ils avaient besoin, eux, je pense, tout de suite de se défouler un petit peu.
Ouais.
Et après, on a fait le tour de la rue. Donc, je regardais les bâtiments. Ils sont super beaux ici parce que tout est blanc. Tu sais, c'est tout doit être construit avec la pierre de Jérusalem.
D'accord.
Donc, j'étais éblouie, en fait, par la clarté du paysage, en fait. Tous les bâtiments sont très clairs. Donc, c'est juste une lumière incroyable, en fait, à Jérusalem. Déjà, la lumière, elle m'a éblouie.
Ah, c'est dingue, OK.
Les rues, elles sont beaucoup trop belles. J'ai vu beaucoup de magasins, beaucoup de... À l'époque, tout était ouvert, malgré que ce soit le confinement. T'avais les restos d'ouvert, les bars, tout était ouvert. C'était assez vivant. Et après, j'ai regardé les gens. Alors, Jérusalem, je t'ai dit, c'est une ville très, très, très religieuse.
Bien sûr.
Et du coup, t'as beaucoup ici de personnes qui font partie de la communauté orthodoxe ou ultra-orthodoxe. Donc, c'est vraiment, tu sais, les personnes, les hommes juifs avec la kippa, ça m'avait pas trop choquée. Mais tu sais, vraiment, je sais pas si t'as déjà vu dans des films comment sont habillés les hommes dans les communautés orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Regarde, pour un petit peu faire référence au film de Louis de Funès, je sais pas si tu vois lesquels, voilà, c'était exactement ça. Et le premier jour, je t'avoue, alors c'était pas du tout méchant, c'était pas du tout un regard avec un jugement ou autre, mais on a été impressionnés parce que c'était vraiment, on va dire, allez, 70% de la population habillée de cette manière, en fait. Et du coup, nos yeux étaient beaucoup posés sur cette différence vestimentaire.
Parce qu'on n'y est pas exposé, puis j'allais dire encore moins à Senlis, en Picardie, quoi.
Ah bah oui, moi, pas du tout, tu vois. Vraiment, j'avais déjà vu en France, et encore très rarement, des personnes avec la kippa.
Ouais.
Mais c'est tout, tu vois. Donc là, vraiment, c'était nouveau pour moi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même assez courant ici en Israël, surtout à Jérusalem.
Qu'est-ce que vous décidez de faire alors, du coup, tout de suite? Alors, je ne sais pas à quel moment est-ce que ton mari commence son travail, à quel moment est-ce que l'école commence chez les enfants. Comment se passe, en fait, justement, voilà, cette immersion dans la vie locale? À quel moment est-ce que tu sens que vous allez rester dans la découverte, et je pense que vous l'êtes encore aujourd'hui, mais est-ce que vous plongez vraiment en mode bah, on habite ici maintenant, en fait?
Déjà, les 15 jours de quarantaine, si tu veux, je m'étais dit, c'est bon, en fait, c'est bien, c'est cool. Tous les jours, je voyais par ma fenêtre le paysage, les gens, les voitures, et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas en guerre, tout est calme, tout est serein. Donc ça y est, j'étais plutôt rassurée. Quand on est sorti, on n'avait pas la voiture au début, parce qu'on n'avait pas encore reçu notre conteneur, donc on s'est débrouillé pour louer une voiture. Alors on avait fait le tour de Jérusalem, tu sais, à pied, non, parce que c'est très grand Jérusalem, mais de notre quartier en tout cas. On avait bien analysé notre quartier, bien découvert les rues, les petits magasins et tout ça. On avait été visiter l'école aussi. Et en fait, moi, après, ma première envie, ça a été de découvrir la mer, tu vois, déjà. Je voulais absolument aller à Tel Aviv. Je voulais absolument aussi voir des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Donc moi, très vite, en fait, je me suis fait un planning avec les lieux qu'il fallait absolument que je visite au mois d'août. Donc ça a été plus sain, en fait. Tu vois, j'étais encore dans la partie plus vacances, on va dire, que vie quotidienne où on reprend le travail, l'école et tout ça. Il nous restait 15 jours avant la rentrée scolaire. Donc moi, les 15 jours, je voulais les vivre comme 15 jours de vacances, tu sais. Donc, ça a été vraiment des visites de lieux. On a profité de la plage, de la piscine, voilà.
Au Royal. Et alors, à quel moment et comment se passe la plongée dans le vrai quotidien, enfin, dans le vrai quotidien, tous les guillemets, qui vont bien, des locaux?
Ça, on l'a vraiment remarqué quand l'école, elle a commencé. Donc, c'était 1er septembre, il me semble. Les écoles, elles étaient ouvertes. Elles sont restées ouvertes 2 semaines, mais...
Oh là là,
ok. On a quand même connu 2 semaines d'école. Bon, moi, ils sont à l'école française.
Ouais.
Donc, dans leur école, on n'a pas trop vu de... Il n'y a pas trop, beaucoup de locaux. Enfin, il y en a, mais c'est ça que je dis, Jérusalem, c'est particulier. Donc, tu as la partie juif et tu as aussi la partie... c'est comme ça ici. Alors, il ne faut pas être choqué de mes mots, la partie arabe, tu sais. Et du coup, dans l'école de mes enfants, c'est, on va dire, 90% d'arabes. Donc d'ici, tu sais, de Jérusalem ou de Palestine.
D'accord.
Et le reste, c'est, il y a peu de Français. Il y a très, très peu de Français. Et le reste, c'est des internationaux espagnols, brésiliens, russes et tout ça. D'accord. Donc, on n'a pas pu vraiment voir ce qui était la vie locale avec l'école, parce que c'est vraiment un cadre à part, l'école, j'ai envie de te dire. Néanmoins, pour les courses et tout ça, on a dû changer notre façon de s'alimenter. On a dit, parce que tu vois, ici, tu trouves pas tout ce qu'on aime en France, quoi. C'est mort. Le fromage, c'est mort. Les yaourts, c'est mort. Y a des légumes que tu trouves pas non plus. Donc, on a dû changer notre façon de manger. On a dû aussi, quand tu vas faire les courses, c'est chiant parce que tu dois toujours avoir ton translate avec toi. Je te disais, tout est écrit en hébreu sur la nourriture. Donc, tu peux pas reconnaître l'hébreu. Tu vois, l'hébreu, c'est vraiment des lettres particulières, quoi. C'est, et il n'y a pas une trace d'anglais. Donc, tu vois des boîtes, tu dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Est-ce que c'est de la farine, du sucre? Tu sais pas.
Bien sûr.
Donc, ça a été vraiment compliqué. Et puis, la barrière de la langue a été extrêmement compliquée aussi, parce que je t'explique pas, quand on a reçu des appels pour l'assurance, pour la voiture, pour payer l'électricité, pour l'eau, ça a été très, 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 très compliqué. Après la vie locale, je vais te dire, ouais. Il y a quand même quelque chose d'important ici. Les week-ends sont pas les mêmes qu'en France.
Mais oui.
En France, voilà. Ah, ça c'est dur. Si tu es samedi, dimanche, c'est notre week-end à nous en France, ouais. Ou en Europe même, ou même aux États-Unis, je pense, ouais. Un peu partout dans le monde. Ici, c'est vendredi, samedi.
Ouais.
Si tu veux, le dimanche, c'est le début de semaine ici. Donc c'est un jour où tout le monde reprend le travail, l'école et ceci et cela. Et ça, c'est... Mais même encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 6 mois qu'on est là et on n'arrive toujours pas à se mettre dans cette ambiance de week-end, vendredi, samedi.
C'est vrai? Tu vas, du coup, tu considères que vous profitez pas de votre week-end?
Bah, écoute, pour moi, mon premier jour de week-end, c'est le samedi. Et encore, ouais. Et le dimanche, pour moi, c'est vraiment le week-end où on va pas aller faire un magasin. On va vraiment faire des choses comme si tout était fermé, tu sais.
Même un truc tout bête, en fait, c'est même pour communiquer, j'imagine, avec la famille ou les amis qui sont restés en France.
Ouais.
Le monde qui.
C'est ça, en fait. C'est le dimanche pour nous, c'est notre jour de repos, tu vois. Et on n'arrive pas trop à se mettre dans cette ambiance. Et du coup, ici, par contre, à Jérusalem, alors à Tel Aviv, moins.
Ouais.
Mais à Jérusalem, le samedi, tout est fermé. Mais quand je te dis tout, c'est tout.
Oh, c'est leur dimanche, quoi.
Ah ouais, mais tu peux même pas trouver une petite supérette pour aller chercher de l'eau, par exemple, ou c'est mort.
D'accord.
J'allais te dire, tout est fermé, c'est très calme. C'est, en fait, c'est Shabbat ici, si tu veux. Je t'ai dit, c'est un pays où vraiment la religion prend vraiment le dessus. Donc tout est fermé, c'est leur dimanche à eux, mais notre dimanche à nous de France, il y a des années où il n'y avait pas un magasin d'ouvert. Aujourd'hui, le dimanche en France, tout est relativement ouvert quand même.
Ouais.
Donc ça a été compliqué et puis voilà, donc c'est cette histoire de week-end qui nous perturbe encore aujourd'hui, tu vois.
D'accord, excellent, enfin d'accord. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Cécile Desperate Diplowife qui on a échangé aux Émirats en début de saison 2 et elle nous disait que elle c'était le vendredi, du coup les collègues qui sont restés en Europe en fait oublient que c'est leur week-end et du coup en fait que son mari qui lui travaille là-bas est tout le temps en fait dérangé le vendredi, enfin c'est, on a beau savoir, on a, je pense que tout le monde en fait a pas mal de mal à intégrer en fait,
oui.
que ouais bah non, c'est le week-end, faut pas y déranger, quoi.
Ouais, parce que exact. Le vendredi, à partir de midi, tout ferme, tu vois.
Ouais.
Tout, ça y est, c'est le week-end. Après, c'est sûr que pour nous, c'est pas évident de se mettre dans cette ambiance-là. Mais alors, imagine pour les amis ou la famille ou les collègues restent en France, c'est encore plus compliqué, ouais.
Bien sûr. Écoute, c'est super intéressant. Donc, j'ai compris que l'école n'est pas restée ouverte très, très longtemps. Est-ce que toi, t'as eu quand même l'occasion de visiter, de t'immerger un petit peu dans cette culture seule, j'allais dire, donc sans ton mari et tes enfants, de découvrir cette nouvelle ville?
Alors déjà, de base, je suis une personne, tu sais, très timide, très réservée.
Ouais.
Donc déjà, en France, découvrir des choses toute seule, c'est pas facile, mais alors à l'étranger, c'est encore pire. Il m'a fallu quelques temps, tu sais, ne serait-ce pour prendre ma voiture et aller oser faire des courses toute seule. Bon, après, j'ai franchi le cap parce que j'ai pas eu le choix. Mais déjà, tu vois, pour moi, ça a été une énorme fierté de pouvoir aller au supermarché, faire mes courses, m'exprimer un petit peu en anglais, être toute seule et me dire, mais s'il y a un problème, je pourrais pas compter sur mon mari, tu vois. Donc, ça a été compliqué pour moi, mais je l'ai fait. Alors après, j'ai pas été vraiment toute seule très longtemps, tu vois, parce que puisque ben, après, les écoles ont fermé. Ça a rouvert un petit peu au mois d'octobre.
Okay.
Et ça a refermé tout de suite après. Donc j'ai pas encore eu l'occasion et la chance, je vais dire, de pouvoir être toute seule pour découvrir la vie ici, quoi. C'est toujours avec les enfants.
Ouais, d'accord. Tu vois, alors moi, ce que je connais de Jérusalem, vous excuserez mes références, mais je suis fan de BD. Je suis notamment beaucoup Guy Delisle, qui est un auteur de BD franco-canadien qui est absolument génial et qui est mari d'expat. Je crois que sa femme bosse à l'OMS. Et en fait, il fait des albums de BD par destination en fait dans lesquelles il va vivre. Et donc, il a fait tout un livre sur les chroniques de Jérusalem. Donc là où il a vécu. Si tu l'as pas lu, je te le recommande vraiment à fond parce que c'est super, super
intéressant. Je ne le sais pas.
Et c'est vraiment génial. C'est fin, c'est drôle et vraiment une plongée culturelle hyper intéressante. Donc, tu nous as parlé, par exemple, tu as de la pierre blanche. J'aimerais bien, tu vois, que voilà, si je ferme les yeux, surtout en ce moment, tu vois, où on peut pas vraiment voyager, est-ce que tu pourrais nous amener à Jérusalem et nous dire, ok, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais sentir, qu'est-ce que je vais entendre, tu vois, nous raconter un petit peu, je sais pas, peut-être un quartier particulier ou un endroit qui t'a particulièrement marqué à Jérusalem.
Déjà, Jérusalem, c'est très beau, c'est très très clair. Très, ouais. Très, très clair. La lumière est incroyable. Il fait tout le temps beau de toute manière.
Ouais.
C'est très bruyant aussi.
Ah ouais?
Ouais, oui. C'est très bruyant. Il y a énormément de voitures, déjà. Il y a énormément de travaux aussi. Ils construisent beaucoup. Donc, faut pas venir à Jérusalem pour avoir du calme, par exemple. Sauf si tu te retires un petit peu. Parce que bon, Jérusalem, je te parle vraiment, voilà, c'est une grande ville. On peut dire que c'est une capitale. On est 9 millions, je crois, en Israël. Donc, tu vois, c'est très petit. Et je pense qu'à Jérusalem, on a un peu plus d'un million. Donc, c'est vraiment concentré. Tu vois, c'est que des immeubles. On est les uns sur les autres, quoi. C'est comme une capitale. C'est vraiment très concentré. Après, pour s'évader, alors, il y a un endroit que moi, j'adore et où j'y suis pas allée depuis le début du lockdown. Mmh. Mais c'est la vieille ville. La vieille ville, c'est juste un havre de paix. En fait, tu quittes vraiment parce qu'il y a plus de voitures dedans. Tu rentres derrière des murs, quoi. Tout est fermé par des murs. T'as plusieurs quartiers dans la vieille ville. T'as un quartier chrétien, t'as un quartier musulman, t'as le quartier juif et le quartier arménien. Et là, vraiment, tu voyages. Là, c'est un voyage dans le temps. C'est juste magnifique. Alors déjà, c'est toujours la pierre blanche de Jérusalem, mais là, c'est une histoire. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'à Jérusalem, t'as toutes les religions qui se côtoient tout le temps au quotidien, toutes les nationalités, toutes les origines. Et tu te rends compte que ça fonctionne super bien. Parce que tu vas dans la vieille ville, t'es dans le quartier chrétien, donc tu vois certaines personnes, tu fais un pas, t'es dans le quartier musulman, tout change du tout, tout, tout.
D'accord.
Tu sais, c'est notre ambiance, là c'est les odeurs d'épices, c'est les odeurs de pain, c'est les odeurs, c'est d'autres odeurs. Uh-huh. Tu fais un pas de plus, c'est dans le quartier juif où là c'est vraiment plus moderne. Franchement, tu voyages, t'as l'impression de faire 4 pays juste dans cette petite ville.
Ah, c'est génial. Et alors, du coup, j'imagine que c'est pas des bâtiments très très hauts. Enfin, ça doit être, en tout cas, ce quartier-là doit être plutôt à taille humaine.
Ah oui, c'est à taille humaine. Je te dis, y a pas de voiture ou seulement les résidents.
Ouais.
C'est des petites bâtisses. Je veux dire, 3 étages maximum. Moi, après, bon, t'as des plus grosses bâtisses comme des hôtels, mais c'est des hôtels qui sont très anciens aussi. Mais c'est pas des hauts bâtiments, non.
Ouais, tu construis pas ce que tu veux là-bas, quoi.
Ah non, pas du tout, non.
Les quartiers de Jérusalem, j'ai l'impression, sont très communautaires. Donc, tu disais dans la vieille ville que tu as des quartiers donc un peu par religion. Qu'est-ce qu'il en est aussi? Parce qu'il y a quand même une grosse, grosse communauté expat à Jérusalem, non?
Oui et non. Il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés. Alors, à Tel Aviv, tu vas avoir énormément de Français expatriés qui sont là vraiment pour le travail. À Jérusalem, t'en as un peu moins quand même, et c'est toujours les mêmes structures, les mêmes employeurs, je veux dire. Il y a beaucoup de Français ici, mais par contre, c'est des Français qui viennent faire leur alia. Mais à Jérusalem même, t'as pas tant d'expatriés que ça. Vraiment, les expatriés sont vraiment à Tel Aviv.
Intéressant.
Mais t'en as quand même, et c'est une super communauté parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivée, dès que je suis sortie de ma quarantaine, j'ai une amie ici qui m'a fait rencontrer d'autres personnes françaises qui sont là comme nous pour le travail. Tout de suite, elles m'ont bien accueillie, tu sais, elles m'ont invitée chez elles. Vraiment, c'est très, très, cette ambiance qu'il y a entre les expatriés français. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais en tout cas, ici, on sent que c'est vraiment une ambiance très solidaire. On peut compter les uns sur les autres, on va dire. Tu vois, c'est comme si c'était une famille. Alors, je ne vais pas te dire une famille parce qu'on en est qu'au début de nos rencontres aussi.
Uh-huh.
Mais il y a vraiment cette entraide entre les expatriés qui est assez importante ici et qui m'a vraiment étonnée, mais positivement, tu sais.
D'accord. Hyper précieux. Alors, je comprends bien que t'as plongé dans le système local et forcément affecté par Covid. Quelles sont les choses que tu as hâte de découvrir peut-être dans Jérusalem que tu n'as pas encore eu l'occasion de vivre peut-être?
Ah, les musées.
Ouais.
Vraiment, je suis trop. Alors, pourtant, je suis pas une fan de musées, tu vois. Mais je sais que s'il y a des musées, tu sais, concernant l'histoire, où j'ai trop envie d'aller, de pouvoir voir les musées. Ça, j'ai hâte que ça réouvre. Mmh. Et aussi, les restos, l'ambiance bar, resto, tu sais, parce qu'on en a fait des restos, mais en 15 jours. Donc, parce que tu sais qu'on est sorti de la quarantaine, on a eu 15 jours de répit, et après, pouf, lockdown.
D'accord.
Voilà, et depuis septembre, il n'y a plus rien d'ouvert, mis à part les magasins qui ont réouvert un petit peu entre octobre et décembre, mais pas les restos, ni les bars, ni tout ça.
D'accord.
Donc vraiment, ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir goûter la nourriture d'ici. On se fait livrer de temps en temps, mais c'est pas pareil qu'un resto, hein, il faut l'avouer. Les musées, et puis aussi avoir des visites guidées. J'en ai eu une pour la vieille ville, mmh. avec un des collègues de mon mari, mais j'aimerais bien vraiment avoir des visites guidées, par exemple du Saint-Sépulcre, vraiment des grands lieux de Jérusalem. On a pu les visiter, mais sans trop en savoir plus que ça, tu sais.
Mmh, bien sûr. Comment est-ce que tu qualifierais l'atmosphère de la ville, du coup?
Calme, il y a du bruit, je te l'ai dit, c'est très bruyant. Néanmoins, quand je te dis calme, pour moi, c'est apaisant, en fait. Tu sais, je t'ai dit, j'ai peur de venir parce que c'est un pays en guerre. Tu vois, moi, je voyais l'insécurité et tout ça. Mais en fait, c'est le jour et la nuit.
Ouais.
On se sent vraiment en sécurité dans les rues. Les gens sont... Tu vois, si tu tombes, ils vont s'empresser, ils vont courir, ils vont te ramasser, ils vont te demander si ça va, tu vois. C'est très rassurant. Les gens, ils vont pas forcément... venir te parler ou tu vois instinctivement, mais en tout cas tu sais que si t'arrive quelque chose ou quoi, il y a des gens qui seront là. L'ambiance est très très douce, très sécuritaire, très tu te sens bien.
D'accord.
Après, faut aussi supporter d'autres choses. On parle souvent d'éducation à la française et aujourd'hui pour moi ça a pris tout son sens.
Ok.
Ici à Jérusalem, ils sont très gentils, ils sont très aimables, ils sont très serviables. Mais à côté de ça, ils sont pas très chaleureux.
D'accord.
On va dire. Dans les magasins, il manque de...
Ah, c'est marrant, tu vois, parce que c'est quand même un pays méditerranéen. On a cette image, tu sais, de la culture méditerranéenne qui est très expansive. Et en fait, pas du tout.
En fait, pas du tout. Alors, ils vont tout donner. J'ai fait des rencontres ici, tu vois, c'est des filles incroyables. Elles m'ont dit, mais viens faire Shabbat à la maison, tu vas venir, on va t'inviter à un mariage et tout ça. C'est des amours, mais vraiment, tu vois. Tu sais, quand tu rencontres même des gens dehors, par exemple, j'ai rencontré l'autre fois une dame avec son enfant. Nos enfants se sont bien entendus. Ouais. Et tout de suite, tu sais, elle m'a proposé de venir chez elle. Et moi, je me suis dit, oh, ça va un peu vite. Et ça, c'est naturel ici,
d'accord.
Tu vois. Donc, ils sont très...
C'est chouette.
Ils sont plus ouverts que nous quand même. Mm-hmm.
Du coup, là, vous êtes partie pour combien de temps?
C'est un contrat de 2 ans.
OK.
Donc, 2 ans minimum. Ensuite, c'est renouvelable 1 an et 1 an. Donc, on sera là maximum pour 4 ans.
D'accord. OK. La situation Covid étant ce qu'elle est dans le monde, on va juste en dire quelques mots. Donc, on a bien compris que là, vous êtes encore en lockdown. Vous êtes en lockdown, mais vous pouvez quand même... Enfin, je vois sur ton compte Instagram, vous faites quand même quelques petites balades dans la ville.
Oui, on a le droit de sortir, en fait. Bon, si c'est pour faire tes courses, aller chez le médecin, à un rendez-vous médical, tu peux dépasser les 1 km.
D'accord.
Mais néanmoins, c'est pour te promener. Par exemple, prendre l'air avec les enfants ou quoi. T'as pas de limitation de sortie. Tu peux sortir toute la journée si tu veux, mais tu dois rester à 1 km de chez toi maximum.
Wow, ok, d'accord. Et c'est surveillé de manière assez stricte?
Oui, il y a les militaires et la police partout ici. Et c'est ça aussi qui m'a... Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de ce que j'ai ressenti dehors. Alors, tu vois, je t'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est naturel, donc j'y fais plus forcément attention. Mais si t'as énormément de militaires dehors, c'est incroyable le nombre de militaires et de policiers, et pas qu'en période Covid, c'est comme ça tout le temps. Ouais. T'en as partout, partout, partout. Et depuis, ça m'a choqué. Aujourd'hui, ça me choque plus, tu vois. Du coup, pour te dire que c'est vachement protégé, ouais.
Je vais te poser une question qui est peut-être un peu bête, peut-être par méconnaissance, mais Israël a donc... décréter Jérusalem comme sa capitale. Mm. C'est une capitale qui n'est pas du coup reconnue partout dans la communauté internationale. Pour toi, du coup, est-ce que il y a des coins de la ville qui sont Israël et des coins qui ne le sont pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Comment ça se passe?
Alors, Jérusalem, c'est très particulier. Mm-hmm. C'est un peu le sujet de la discorde, tu vois. T'as Jérusalem ouest.
Ouais.
Donc moi je vis à l'ouest, c'est on va dire c'est chez les juifs, les israéliens.
D'accord.
T'as Jérusalem Est, c'est aussi israélien,
okay.
C'est aussi sous l'autorité israélienne, sauf que c'est plus les arabes L'Est, c'est vraiment où il y a tous les Arabes, les chrétiens arabes et les musulmans.
D'accord, ok.
Donc, il faut le dire, il y a une frontière invisible entre ces deux quartiers, bien que tu puisses aller d'un quartier à l'autre sans aucun problème. Tu vois, je vais autant à l'Est qu'à l'Ouest sans aucun problème, mais frontière, tu la sens parce que même au niveau des bâtiments, de la vie, des magasins, c'est vraiment différent.
D'accord.
Okay. Tout est différent entre les deux quartiers, ouais.
Et qu'est-ce qui est différent alors ? Enfin, qu'est-ce que tu ressens de différent ?
Bah déjà la culture.
Ouais.
Tu vois, d'un côté, tu as les Israéliens. Donc les Israéliens, c'est vraiment un peu toutes les nationalités. Uh-huh. Et puis c'est principalement des Juifs, tu sais. Donc ça va plus être une culture un peu comme chez nous en France, j'ai envie de te dire, où c'est très cosmopolite. C'est très comme en France. C'est très. Voilà. Et de l'autre côté, tu sais, par exemple, quand je vais à l'Est. Mmh. Donc là, c'est vraiment chez les Arabes. Donc, c'est les Palestiniens, en fait, finalement. Mmh. Bah là, tu te retrouves plus dans un pays oriental, j'ai envie de te dire, où je sais que, tu vois, si j'ai mis un mini-short toute la journée, si je vais dans la vieille ville, je sais que je vais... Alors, on va rien me dire, hein, attention. Hein. On est bien d'accord, mais je sais que il vaut mieux que je me couvre un peu plus, tu sais.
D'accord.
Donc, déjà, tu vois, il y a ces deux choses qui sont vraiment différentes. Après, les magasins aussi. Dans les magasins du côté Est, chez les Arabes, du coup, je pense que toi, quand t'es français, pas juif en tout cas, tu te sentiras plus à l'aise d'aller faire tes courses à l'Est, chez les Arabes, parce que tu vas trouver plus de produits français, par exemple, pas des produits forcément cachers. Ouais, c'est là-bas où je trouve plus de choses que j'aime, tu vois.
D'accord.
C'est vrai que l'alimentation cachère, elle est particulière, pas au niveau du goût, mais tu retrouves beaucoup moins de produits français, en tout cas. Et puis après, t'as aussi la façon de vivre des deux communautés. Je sais pas si c'est une façon de vivre ou si c'est une façon d'entretenir les coins, mais c'est pas entretenu de la même façon par la ville, malgré que ce soit...
Ah, c'est la même autorité.
Ouais, c'est à l'Est, c'est aussi le gouvernement israélien qui gouverne, j'ai envie de te dire, le côté Est. Ouais, ouais. C'est pas la Palestine, en tout cas, tu peux aller et venir sans problème.
D'accord.
Par contre, tu sais, quand on va dans des territoires palestiniens, on passe des checkpoints.
Ouais, ce que j'allais te demander, ouais, ouais.
Et là, vraiment, tu sors de l'autorité israélienne, tu rentres dans des territoires palestiniens sous autorité palestinienne.
Et ça, d'ailleurs, tu peux te balader librement ou est-ce qu'il te faut une bonne raison pour aller dans des territoires palestiniens autour ?
Non, non, alors... Moi, tu vois, au début, j'avais encore ces a priori où je me disais, mais on peut pas y aller, ça craint, on va passer un checkpoint. Est-ce que là-bas, on va pas se faire tirer dessus? Et en fait, pas du tout, tu vois. Mais maintenant, on a été déjà plusieurs fois. Alors nous, on a fait surtout Bethléem, on a fait aussi d'autres petits villages en Palestine. Et en fait, tu passes le checkpoint. Alors la première fois, c'est un peu impressionnant quand même, parce que tu dis, tu vois, t'as tout le mur quand même qui sépare la Palestine de l'Israël.
Ouais.
Donc au début, c'est un peu impressionnant. Après, tu fais plus forcément attention. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, on est en Palestine et en fait, c'est normal, quoi. Ils sont super accueillants, super gentils. Tu vois, j'étais à Bethléem, j'ai rencontré des personnes, mais qui ont la main sur le cœur. Et j'ai été choquée, j'en ai même parlé sur Internet, tu vois. Tellement j'ai été éblouie par cette gentillesse des gens là-bas, ouais. Non, non, c'est génial. Tu peux y aller comme tu veux. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, quand t'es israélien, tu peux pas aller en Palestine.
Ouais.
Pas sur une zone où c'est l'autorité palestinienne. Tu sais, t'as des grands panneaux rouges où ils te disent si t'es un citoyen israélien, danger de mort. Et je sais que par exemple, moi j'ai rencontré des filles ici, des israéliennes, qui m'ont dit mais t'as trop de la chance d'avoir été à Bethléem, nous on peut pas y aller et tout ça.
Ah,
et,
d'accord.
Mais tu vois, nous, quand on y va, ils nous demandent pas si on est français ou pas. Les Palestiniens, ils savent pas de quelle origine on est, de quelle nationalité on est. Et pourtant, ça se passe hyper bien.
Mais ils contrôlent comment, du coup? Parce que t'as pas un passeport ou un truc comme ça?
Si, on a notre passeport et on a aussi une carte, une ID, en fait, israélienne.
D'accord. Donc, ils savent quand même à peu près d'où tu viens, quand même.
Oui, oui. Au checkpoint, oui. Mais je te parle des habitants.
Ah oui, d'accord. Bien sûr, compris.
D'ailleurs, ils nous disent shalom et tout, tu sais, quand on y va, parce qu'ils voient bien qu'on n'est pas palestinien, qu'on n'est pas arabe.
D'accord.
Du coup, ils pensent qu'on est israélien. Ils nous disent shalom et tout ça. Et puis bon, après, ils se rendent vite compte qu'on est français, forcément.
Ouais.
Mais non, ça se passe super bien.
Super. OK.
Bon, après, il y a des coins où c'est mort. Tu vois, on n'y mettrait jamais un pied. Par exemple, Gaza. Là, c'est vraiment des coins prohibés, quoi. C'est tout. On peut pas y aller. Mais le reste de la Palestine est plutôt très, très accueillante.
C'est super chouette, en tout cas, de voir qu'effectivement, voilà, vous pouvez passer d'un coin à l'autre et puis de pouvoir faire taire un petit peu pas mal de clichés qu'on peut avoir sur cette zone du monde qu'on connaît très mal, finalement, sans y être allée.
Ouais, j'étais la première à connaître très mal, hein, Israël. Hein, et tous les jours, j'en découvre davantage. Et tu vois, aujourd'hui, tout ce que je peux te dire, c'est que je me sens plus en sécurité ici quand je suis dehors, France, tu vois. Ouais.
Et comment tu l'expliques ?
Ben, il y a pas d'insécurité, il y a pas de délinquance, il y a pas de vol, tu vois souvent des vols là de portables, de sacs à main, des jeunes qui agressent, des groupes de jeunes qui peuvent créer l'insécurité, des fous furieux qui enlèvent des enfants, ça n'existe pas ici, tu vois, ça doit exister mais c'est très très rare parce que je pense que c'est un pays qui est aussi, il faut le dire, très très strict. Ouais. Tu vois, je pense que si tu t'amuses à voler ou agresser quelqu'un dans la rue, tu t'en sors pas avec une petite visite au commissariat, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens du coup, ou peut-être aussi une autre mentalité, je ne sais pas, tu vois, mais n'importe où tu vas, que ce soit Palestine, Israël, ce que tu veux, c'est, il y a pas d'insécurité.
OK. Tes enfants du coup, tu sens qu'ils se plaisent à Jérusalem ?
Bah écoute, ça a été dur pour eux l'arrivée. Ouais. Bah déjà, il y avait la quatorzaine, donc ça n'a pas vraiment aidé notre intégration. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'ils adorent, tu vois. Ils adorent la vie ici parce qu'il fait tout le temps beau, parce qu'ils peuvent tout le temps aller à la piscine, parce qu'ils peuvent tout le temps jouer dehors. Et à côté de ça, je vois que, tu vois, ils sont saoulés par le Covid, la famille leur manque, l'école, ça se passe pas très bien quand ils sont à l'école, du moins pas à l'école à la maison, mais quand ils sont à l'école. Mm-hmm. Du coup, j'ai envie de te dire, des fois, ils vont me dire, oh, maman, on adore Jérusalem, c'est trop bien. Et puis des fois, elles vont dire bah non, nous, on a envie de rentrer en France, on n'aime pas, c'est nul, c'est chiant, tu vois. Je pense que c'est encore trop tôt, en fait, pour savoir s'ils se plaisent plus ici qu'ailleurs. D'accord. Je pense que c'est encore trop tôt et vu les conditions particulières avec le Covid, c'est dur pour eux aussi de vraiment avoir une vie normale et de pouvoir se faire une vraie idée, en fait, de la vie ici.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à la Laetitia d'il y a 6 mois, justement, peut-être même d'il y a 1 an, quand tu as su que la destination changeait, quelque chose qui t'aurait peut-être aidé à préparer ton arrivée ou à vivre ton arrivée de manière un peu plus sereine?
Ouais, je pense que je lui aurais dit de pas rester en mode dans le déni.
Ouais.
Renseigne-toi sur la vie là-bas, renseigne-toi sur la culture, renseigne-toi sur la langue, parce qu'en fait, moi, je suis restée dans le déni, donc j'ai pas voulu en savoir plus que ce que mon mari me montrait. Mmh. Tu vois, j'ai pas fait l'effort peut-être d'apprendre plus l'anglais, de me mettre à jour, on est au niveau de l'anglais. J'ai pas fait l'effort de connaître la culture, la religion. J'ai pas fait l'effort non plus de chercher davantage de renseignements sur l'école, sur les sports pour les enfants. Tu vois, j'étais vraiment dans le déni. Et du coup, j'ai pas préparé mon départ. En fait, j'ai tout laissé dans les mains de mon mari et je m'en suis pratiquement pas occupée, tu vois.
D'accord.
Et je pense que si j'avais quelque chose à dire, c'est reste pas dans le déni, prends ton déménagement en main et ton installation aussi, plutôt que là. Tu vois, pourtant, je suis toujours dans le contrôle de tout. Mais cette fois, en fait, j'ai laissé vraiment cette partie-là à mon mari. Aujourd'hui, je le regrette un petit peu, tu vois.
Est-ce que, du coup, la profession de ton mari, sans rentrer dans les détails, peut vous amener à voyager de nouveau? Est-ce qu'il y a des destinations, d'autres destinations qui te tenteraient? Peut-être que ça t'a donné envie même de découvrir des coins du globe que tu aurais peut-être pas considéré avant d'arriver en Israël.
Alors oui, on peut refaire d'autres voyages à l'étranger avec mon mari, d'autres expatriations, dis-moi.
Ouais.
Alors même si, tu vois, des fois je rumine et je me dis, moi je veux rentrer en France parce que, tu vois, c'est lockdown, c'est l'école à la maison.
Ouais, c'est pas vrai.
C'est un peu tout ça. Donc, tu vois, des fois, je suis tellement en colère. Je dis, je vais rentrer en France, j'en ai marre. Tu vois, c'est vraiment plus sur l'instant T quand j'ai une mauvaise nouvelle concernant le confinement. J'appréhende déjà ce retour en France dans 4 ans. J'ai pas envie de rentrer en France, en fait.
Déjà. C'est dingue.
Ouais, déjà. Parce que je me rends compte que la vie ailleurs, elle t'offre plus de choses. Ça t'apprend beaucoup plus de choses. Moi, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça me pousse à me dépasser, tu sais, toujours plus. Et je vois aussi les enfants, malgré tout, malgré que je te dise, je sais pas trop s'ils se plaisent plus ici qu'ailleurs, mais en tout cas, je vois que ça peut leur faire que du bien, parce qu'ils ont appris aussi qu'il y avait plusieurs religions, qu'il fallait vivre avec d'autres religions, avec d'autres personnes.
Belle ouverture.
Exactement, tu vois, ça leur fait une belle ouverture d'esprit. Ils apprennent d'autres langues, tu vois, ils jonglent avec 3 langues. Et je me dis, j'ai envie de continuer comme ça, à leur offrir, en fait, plein de destinations différentes. Mmh. Moi, j'ai un rêve, c'est les États-Unis, comme beaucoup de personnes, tu vois, je pense. C'est vraiment un rêve de vivre aux États-Unis, parce que j'étais à New York et j'adorais, tu vois. Mais j'aimerais bien aussi, pourquoi pas l'Asie. L'Asie, c'est un continent que j'adore, tu vois, la Thaïlande, le Vietnam et tout ça. J'aimerais bien aussi poser mes valises là-bas, ouais.
Mais écoute, l'épisode qui sortira juste avant toi, c'est un épisode en Thaïlande que j'ai fini de monter hier soir. Donc, je pense que ça te fera du bien. Tu aimeras bien.
On a été 2 fois en Thaïlande tellement on adore, tu vois. Ouais. C'est un coup de cœur, la Thaïlande.
Ah, génial. C'est vrai que ça a l'air d'être un magnifique pays. À quoi est-ce que tu penses que ton quotidien ressemblerait si t'étais pas partie?
Oh, bah, il serait encore triste.
Ah ouais?
Ouais, bah mon mari en France, alors aujourd'hui, il y a des horaires super où on a une vie de famille, mais au top.
Ouais.
En France, lui, il avait des horaires horribles, on ne voyait jamais.
Ah ouais, d'accord.
Jamais les mêmes horaires, toujours, il était souvent rappelé pour aller retravailler, donc c'était compliqué d'avoir une vie de famille. Mmh. Moi, j'avais mon entreprise aussi à côté qui me prenait énormément de temps.
Ok.
Donc, on courait toujours après le temps, en fait, finalement, tu sais, on ne se posait pas réellement. Bah, ça ressemblerait à ça, voilà, courir après le temps, se dépêcher, travailler, la routine, quoi.
Ouais. On arrive à la fin de cet entretien. La question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir ton lieu d'expatriation en trois soit lieux, soit donc choses à voir, à vivre, à sentir, à goûter ou à ramener. Qu'est-ce que ce serait ces trois suggestions?
Alors, à voir, bah, si on vient à Jérusalem, il faut absolument aller dans la vieille ville.
Ouais.
C'est un passage obligatoire. On ne peut pas venir ici sans découvrir la vieille ville.
Ouais.
Il faut absolument goûter le houmous et les falafels.
Ok.
Et ensuite, je dirais aussi, il y a quelque chose qu'il faut absolument visiter. Alors, c'est peut-être pas Jérusalem, mais c'est pas très loin, tu vois. C'est à une vingtaine de kilomètres. C'est la mer morte.
Tu l'as faite?
Ouais, je l'ai faite et c'est un moment, mais magique. Tu flottes dans l'eau. C'est pas une légende. Tu flottes vraiment dans l'eau. C'est incroyable. C'est une sensation incroyable. L'eau fait mal.
Ouais, tellement c'est salé.
Ouais, c'est très salé. Du coup, si t'as des petites micro-coupures, mais tu sais, même un
ouais,
petit peu des petites peaux comme ça, oh là là. Après, t'es anesthésié. Au bout de 2-3 minutes, la douleur s'en va, c'est complètement anesthésié. Et là, tu peux savourer. Mais par contre, l'été, il faut éviter parce que nous, tu sais, on a été au mois d'octobre. Mm-hmm. Il faisait encore 40 degrés. L'eau, elle est hyper chaude. T'as l'impression de rentrer dans un jacuzzi.
Waouh, ok.
Mais c'est un endroit qu'il faut absolument faire parce que flotter dans l'eau, c'est une sensation vraiment incroyable,
ouais.
Magique. C'est de la détente à 100 000%. Un spa à côté, c'est rien, quoi. Vraiment, c'est bien. Et puis, il paraît que c'est bon pour les problèmes de peau. Donc, écoute, il faut absolument le faire.
Mon papa va aller, donc, du coup, avant tout ce qui se passe actuellement dans le monde, mais pas mal en Israël pour le boulot. Il me ramenait souvent des produits à base de boue de la mer morte,
oui,
qui sont incroyables pour la peau. Enfin, franchement, faut être honnête.
Exactement, bah, c'est ce qu'on prend aujourd'hui. On prend que des produits, tu sais, pour le corps, on prend que des produits à base de boue, du sel ou de l'eau de la mer morte, ouais.
Ouais, non, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Laetitia?
Eh ben, écoute, comme tout le monde, je pense la fin du Covid pour qu'on puisse enfin savourer, découvrir et vraiment pouvoir s'intégrer plus facilement. Ouais. Franchement, c'est tout ce que je demande.
Écoute, en tout cas, c'est clair. Ça a le mérite d'être très clair. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin?
Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi d'être venu vers moi pour cette petite interview. J'ai appréhendé beaucoup, mais ça a été super chouette. Puis du coup, tu m'as replongé, tu sais, dans le passé. Tu m'as remis un peu dans mes ambiances du passé, ça m'a fait voyager aussi et ça m'a fait du bien, tu vois, cette petite interview, ça m'a mis sourire et j'en avais besoin, tu vois.
Ah bah génial, écoute, en tout cas un grand merci à toi, je te souhaite d'avoir l'opportunité de découvrir encore plus ton pays d'expatriation, de t'éclater pendant les 4 années à venir et peut-être plus, on verra. En tout cas, on aura le plaisir à suivre la suite de tes aventures à Jérusalem. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Laetitia de nous avoir fait découvrir sa vie et son histoire à Jérusalem. Ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant deux points particuliers. Le fait que l'expatriation, ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Et des fois, il y a des cas extrêmes comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on arrive dans un nouveau pays qu'on n'a pas la chance de voir ou qu'on observe depuis son balcon pendant un petit bout de temps. Et je trouvais que c'était important de mettre en valeur, en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on vit tout ça. Et le deuxième élément, c'est la méconnaissance en fait qu'on a tous, hein, je pense pas forcément tous de l'Israël, mais d'autres pays, qui fait que nos peurs parfois peuvent prendre le dessus sur ce qu'on vit, sur la manière qu'on a de se projeter. Et je trouvais donc que c'était très intéressant puisque Laetitia est très transparente là-dessus. Elle pourrait tout à fait se protéger et ne pas partager tout ça. Et je la remercie beaucoup pour sa sincérité et l'authenticité de son témoignage. Je vous remercie, vous également aussi, d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez pu voyager à votre tour. N'oubliez pas que pour discuter avec la communauté, on vous retrouve sur Instagram ou sur à peu près tous les réseaux sociaux. On est un peu partout. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour discuter de l'épisode et puis pour échanger avec Laetitia directement.
Si vous souhaitez aider le podcast à se développer, n'hésitez pas à partager cet épisode, votre épisode préféré, avec vos proches, avec des fans de voyage ou des futurs ou ex-expats. De mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.